Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Lievin Mbwinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, suite du procès des présumés assaillants de la tentative du coup d'État manqué du 19 mai dernier dans la capitale, dans ce journal, la réplique du ministère public, il rejette la demande de liberté provisoire de tous les prévenus et confirme la compétence du tribunal. Massacre dans certaines zones du Nord Kivu, le député national Gratien Irakan monte au créneau. Cet opposant membre d'Ensemble pour la République dénonce la banalisation des massacres par le gouvernement. Dans une correspondance adressée à la première ministre Judith Souminois, l'élu de Bounia en Ituri s'interroge sur le silence du gouvernement. Et puis focus sur les émoluments des députés nationaux. En tout cas, c'est la coalition Le Congo n'est pas à vendre qui se charge de cette démarche. Sa mission, mettre un terme à la polémique autour de cette problématique. Pour en parler, Valérie Madianga est l'invitée de Radio Kapi ce matin. Encore une fois, bonjour. D'abord, cette nouvelle démission d'un membre du gouvernement souminois hier mardi à Kinshasa. Il s'agit de Madame Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat. Selon le communiqué publié hier à Kinshasa et signé par le cabinet de la première ministre, chef du gouvernement, Madame Stéphanie Mbombo a déposé sa démission du gouvernement pour convenance personnel. Ce document ajoute que Madame la Première ministre a informé le chef de l'État qui en a pris acte et en conséquence a déchargé Madame Stéphanie Mbombo Mwamba de sa fonction. Le communiqué souligne enfin que Madame la ministre Stéphanie Mbombo, dépourvue de qualité, ne peut plus engager le gouvernement de la République à dater de ce jour. Procès des présumés assaillants de la tentative du coup d'État manqué le 19 mai, le ministère public demande au juge le rejet de tous les mémoires de la défense et de reconnaître sa compétence à juger les prévenus. À l'audience publique hier, mardi, devant le tribunal militaire à la prison de Ndolo, il a répliqué aux exceptions soulevées le 14 juin dernier par les avocats des prévenus. Ceux-ci plaidaient pour l'incompétence du tribunal, la liberté provisoire en faveur de leurs clients, la nullité des procès-verbaux, bref, pour l'annulation pure et simple de toute la procédure préjuridictionnelle qualifiée de biaisée. Dans sa réplique, le ministère public a expliqué les raisons pour lesquelles ces exceptions doivent être rejetées. Le tribunal a pris la cause en délibéré et rendra son jugement avant dire droit le mardi prochain. Reportage Jeff Ngoy.
Du point de vue du droit, le ministère public se fonde sur les dispositions de l'article 246 du code judiciaire militaire qui serait violé par la défense. D'après lui, en présentant des mémoires uniques pour plusieurs prévenus à la fois, au lieu d'un mémoire pour chaque prévenu. Il s'appuie également sur l'article 79 du même code qui reconnaît au tribunal militaire la compétence à juger ses prévenus pour des faits commis résultant notamment du terrorisme, de l'attentat, de la détention illégale d'armes et munitions de guerre. S'agissant particulièrement de l'interprétation de la langue de l'accusé américain et allemande.
Il a comparu en anglais, contrairement aux déclarations de son conseil, langue de son choix. Traduction a été faite par l'OPJ.
Concernant le prévenu Marcel Malanga,
l'article 203 du code pénal militaire qui consacre la détention illégale d'armes de guerre vous rend compétent à son égard.
Et pour Jean-Jacques Ondo,
le conseil oblique Ondo
est poursuivi pour financement du terrorisme. Attentat. Affilié à un mouvement armé, il a joué le rôle de fournisseur de moyens.
La réquisition à médecin pour les prévenus qui se disent malades et blessés à la suite des tortures présumées et ne peut pas être évoquée dans un mémoire unique et devait plutôt faire l'objet d'une requête à part, à en croire l'auditeur militaire.
Le ministre d'État en charge de la justice veut faire de la lutte contre la corruption un élément important pour faire avancer le pays. Les propos sont de Jules Alinguété, inspecteur général des finances et chef de service. Il s'est ainsi exprimé lundi à l'issue de l'entrevue qu'il a eue avec le tout nouveau patron de la justice congolaise. Selon lui, Constant Mutamba lui a donné des urgences à réaliser le plus rapidement possible. Quelles sont ces urgences? On l'écoute au micro de nos confrères de la RTNC.
transmettre tous les rapports de ces trois dernières années et a établi des faits de corruption et criminalité financière pour que le ministère de la Justice s'en occupe. Donc nous allons rapidement, dans les 72 heures, recenser tous les rapports et a établi des faits de criminalité financière pour les transmettre à l'autorité. Deuxièmement, il y a une série d'audits qui vient d'être commandée à l'inspection générale des finances, notamment l'audit de tous les fonds mis à la disposition de la République pour l'indemnisation des victimes de Kisangani.
Dossier spoliation des parcelles des agents de la SNCC Kindu par le service des titres immobiliers. Évidemment, c'est la déception totale des travailleurs dépourvus qui demandent l'implication de l'Assemblée provinciale du Maniema. Demande exprimée hier mardi en présence du député provincial élu de Kindu, Ngongo Kitenge Constantin. Après avoir franchi toutes les étapes sans obtenir gain de cause, ces agents réclament qu'ils soient remis dans leurs droits. On écoute leur porte-parole, Kimwanga Kisimba, au micro de Florence Kizilunga.
Vous savez, nous, les petits peuples, nous constituons un groupe de 100 voix. Dans notre pays, vous savez, il n'y a pas de justice. Et ça, c'est le président lui-même qui l'a dit, la justice est malade. Et on peut marcher sur nos droits comme on veut. Notre problème, c'est que la société nous avait vendu de parcelles, au camp Makuta précisément. Depuis l'année 2007, l'année de leur vente, des propriétés exclusives des agents SNCC. Maintenant, les conservateurs des titres immobiliers, ils se donnent les kilos d'entrer dans ces propriétés privées et de morceler ces parcelles appartenant aux agents. Les députés, ce sont nos élus. Nous sommes les gens des 100 voix. C'est eux qui ont la parole, qui peuvent voir les autorités compétentes et pour leur expliquer ce qui se passe. Donc l'injustice qui s'est faite dans notre province. À l'heure où je vous parle, le conservateur, il a déjà borné. Il a déjà vendu aux tierces personnes les parcelles des agents. Il a borné, il a déjà vendu. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est la vente pure et simple. Les maisons du camp Makuta, c'est autour de 70 maisons. La SNC, en vendant ce parallèle, elle a remis à chaque agent un croquis. Tout le monde. Ce n'est pas seulement ici à Kindu, partout ailleurs.
Tuerie à répétition dans certaines zones du Nord Kivu. Le député national Gracien Irakan hausse le ton. Il dénonce la banalisation des massacres par le gouvernement. Dans une correspondance adressée hier mardi à la première ministre Judith Suminois, l'élu de Bounia en Ituri dit ne pas comprendre le silence et l'inaction du gouvernement face à ces tueries à répétition. Il déplore ces cas pour cet opposant membre d'Ensemble pour la République. Il n'est pas normal qu'il y ait une succession des massacres à l'intervalle de 9 jours sans que les services de sécurité ne soient capables de les anticiper. Gracien Irakan est au micro de Michel Kifindangoy.
Je suis de plus en plus inquiet du fait que le massacre à l'est de la République démocratique du Congo commence à être banalisé. Les gouvernements minimisent le nombre des personnes qui sont tuées, exécutées sur terrain. Et parfois, il faut que les réseaux sociaux forcent d'abord les gouvernements avant de pouvoir dénoncer. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, par exemple, ce qui vient de se passer dans la région de Beni, Lubero, ou du 3 au 12 juin, pendant 9 jours, qui est une succession de massacres dans plusieurs localités, sur plusieurs axes, et qui n'est pas moyen d'anticiper ce qui s'est passé. Mais nous constatons qu'il y a mort d'hommes, plus de 200 personnes abattues. Là, notre chiffre, c'est 215 personnes. Et pour nous, c'est une grande douleur qui nécessite à ce que toute l'opinion nationale et internationale puisse quand même être solidaire avec ce qui se passe à l'est.
Accalmie relative observée hier mardi sous la ligne de front au nord de Goma, sur l'axe Nirangongo, tout comme sur l'axe Sake à l'ouest. Dans le Nirangongo, le trafic de motos et des activités champêtres ont repris timidement vers Kibati en raison du renforcement des positions de deux forces, indique la société civile. Cependant, des affrontements ont été signalés pendant quelques heures dans la matinée, toujours d'hier mardi, dans le groupement de Bukombo, chefferie de Buito. D'après nos sources, les rebelles du M23 venus de Mulimbi et Lubwe ont attaquer les Wazalendo à Tchoni. Des jeunes de Mbandaka, Dikuluna, évacués direction Kanyamakasese. Ils sont 149. Il s'agit de jeunes bandits qui sèment la terreur dans la ville. Ils sont capturés depuis 2 semaines lors de la traque des Kuluna. Ils constituent la première vague mise à la disposition du service national. Toutefois, l'ONG APEE dénonce la présence des mineurs parmi eux. Paul-Richard Malengela pour le reportage.
Déjà 325 jeunes d'Ikuluna sont arrêtés et la plupart gardés à la prison centrale de Mbandaka depuis le début de leur traque. Après l'identification, 140 ont été évacués ce lundi par avion à Kanyamakasese via Kinshasa. Car indique le ministre provincial de l'Intérieur et gouverneur intérimaire Crispin Poutou, c'est à l'initiative de l'autorité provinciale que l'Équateur est en partenariat avec le service national en vue de la reconversion de ces jeunes criminels en acteurs de développement. Certes, plusieurs Mbandakais saluent l'initiative qui les sécurise. Cependant, d'autres déplorent l'arrestation de nombreux innocents. De même, l'ONG APEE, qui encadre des enfants, dénonce la présence de 30 mineurs parmi ceux qui sont évacués. Son coordinateur, Marcel Toté, s'indigne.
Le ministre faisait un intérim du gouvernement. Il a décidé que tous les mondes puissent aller à l'aéroport. Et même quand nous sommes arrivés à l'aéroport, à part le premier enfant qu'on a fait sortir, les autres, on avait refusé notre accès à ces enfants. Donc, de toute façon, c'était pas bon. On a exprimé notre indignation pour dire que non, c'est pas comme ça, ça marche.
Le gouverneur intérimaire reconnaît quelques faiblesses tactique dans l'opération, mais Crispin Poutou nie le transfert des Kuluna mineurs.
J'ai grandi et j'ai créé aussi les lois de la République. Des Kuluna mineurs sont transférés à l'ergie naturelle. Dans ces groupes, on a transféré qui est les majeurs.
Notons que 7 autres enfants sont encore gardés à la prison centrale. Ils attendent d'être fixés sur leur sort alors que la traque se poursuit dans la ville. Bondaka pour Chamalingela, Radio Okapi.
À propos justement de ces transferts, des jeunes délinquants appelés Kuluna de l'Équateur et autres parties du pays vers Kanyamakasese dans le Haut-Lomami, ainsi que la polémique qui enfle le numéro 1 du service national explique. Le général Kasongo Kabuit, qui dirige ce centre, précise qu'en dehors des jeunes délinquants, beaucoup d'autres jeunes volontaires se font aussi enrôlé pour rejoindre le camp des bâtisseurs dans le but d'apprendre un métier et être utile à la société. On écoute le général Kasongo Kabuit qui s'adressait lundi à la presse de l'Équateur peu avant le départ de 200 jeunes à destination de Kanyamakasese. Ses propos sont sélectionnés par Jean Gandou.
Lorsque nous venons prendre ceux de l'Équateur, lorsque vous parcourez leurs fiches d'identification, tous ne sont pas originaires de l'Équateur. Lorsque nous prenons ceux du Katanga, tous ne sont pas originaires du Katanga. Kinshasa, la même chose. Ils ne s'attaquent pas à une province de manière exclusive. Pour que certains disent, non, voilà, on est en train de vouloir apurer notre jeunesse. Ça, c'est un discours politicien. Ce n'est pas ça, le service national. Je voudrais encore préciser que nous sommes dans la lutte contre la délinquance juvénile. Nous sommes dans la lutte contre la criminalité. On n'attend pas que les criminels eux-mêmes viennent ou qu'on plaide, donc on doit les traquer. En dehors des délinquants, il y a des jeunes volontaires qui s'adonnent. Ici, à l'Équateur, plus de 50% sont des jeunes volontaires qui sont convaincus qu'au service national, il y a un avenir pour les jeunes. C'est pour démentir ceux qui pensent que Kanyamakasese, c'est un roi ou le service national, c'est un lieu de torture. Ça, ce sont des discours politiciens. Nous disons aux provinces qui sont en train de tergiverser ou de chercher à politiser la chose. Aujourd'hui, nous allons partout où nous allons, ils font des caprices. Que demain, ils ne se plaignent pas. Lorsque le service aura atteint, par exemple, 50 000 bâtisseurs, vous vous retrouvez avec votre province, vous n'avez que 300, que vous ne vous plaignez pas. Nous donnons la même chance à toutes les provinces là où nous allons.
Retour à Kinshasa, le ministère des Affaires sociales et Médecins sans frontières autour d'une table. Les deux parties réfléchissent sur comment anticiper sur les inondations en élaborant un plan de préparation contre les catastrophes naturelles. C'est ce qui ressort de l'atelier organisé hier mardi par les deux structures dans la capitale. Cet échange a servi aux participants de comprendre les risques que représentent les inondations pour la population kinoise. Suivez ce reportage d'Étienne Lissoumbou.
Pour le secrétaire général des Affaires sociales, les constructions anarchiques sont parmi les causes des inondations dans le pays, plus particulièrement à Kinshasa. Il revient sur les difficultés de lotissement que connaît le pays. Alain Yeti.
La question du lotissement à Kinshasa est cruciale. On a identifié des sites pour délocaliser certains ménages sinistrés, mais la question c'est l'aménagement de ces sites pour que, en amenant les sinistrés là, ils trouvent le minimum.
Pour sa part, Médecins sans frontières intervient notamment en faveur des sinistrés, en leur apportant un appui alimentaire. Docteur Dago Inagbe, chef des missions à MSF, parle des actions menées par son organisation au bénéfice des victimes des inondations, principalement à Kinshasa.
Nous avons avons mis en place des abris pour ne pas qu'ils dorment dehors. Nous avons mis de l'eau, nous avons mis de l'éclairage, ensuite un support en santé mentale et nous avons mis un focus sur les personnes en situation de handicap. Parce que souvent dans les situations d'urgence, on les oublie. Après, nous avons apporté un appui alimentaire quand on s'est rendu compte que ces personnes, pour la plupart, n'avaient pas de source de revenus pour acheter à manger.
Signalons qu'au cours de cet atelier, un travail de réflexion a été mené au sein des 6 équipes mises sur pied. Objectif, proposer des pistes de solutions au ministère des Affaires sociales et à MSF dans la lutte contre ces catastrophes naturelles que sont les inondations.
Actualité internationale.
À N'Djamena, au Tchad, un important incendie a ravagé mardi soir un dépôt militaire de munitions. De nombreuses détonations très puissantes se sont fait entendre jusqu'à plusieurs kilomètres du dépôt du quartier de Goudji, non loin de l'aéroport de la capitale tchadienne. Avec l'intervention des militaires et des pompiers, l'incendie diminuait peu à peu dans la nuit. Le président Mahamat Idriss Déby a déclaré sur sa page Facebook qu'il y avait des morts et des blessés.
L'invité.
Polémique autour des émoluments que touchent actuellement les députés nationaux, la coalition « Le Congo n'est pas à vendre » affirme suivre de près la problématique du train de vie exorbitant des institutions publiques de la RDC. Pour cette plateforme qui regroupe plusieurs organisations non gouvernementales, la loi des finances 2024 fixe les émoluments des députés à 23,4 millions de francs congolais et non 14 millions avancés par le président de l'Assemblée nationale. Pour en parler, Valérie Madianga est l'invitée de Radio Okapi ce matin. Il est interrogé par Michel Kifintangoy.
Valérie Madianga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Pour vous, les députés ne touchent pas 5 000 dollars comme l'a prétendu le président Kamere. Quelles sont vos preuves?
Je voudrais vous dire que, d'abord, le budget, c'est une loi. Et lorsqu'il y a baisse des crédits budgétaires, ça doit être retranché dans une loi. Ici, dans les cas échéants, c'est la loi des finances rectificatives qui devrait, en principe, baisser ces émoluments des députés. Pour l'instant, nous considérons que les propos du président de l'Assemblée nationale, ce sont que des intentions.
Mais finalement, pièce contre pièce, le président Kamere dit que les députés touchent désormais 5 000 dollars. Vous en savez quoi?
Non, mais c'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas baisser le salaire de quelqu'un par le discours.
Et vous à votre avis, les députés touchent combien?
Le salaire, c'est un droit, ce qui est retracé dans la loi des finances, c'est 9 300 dollars.
Et d'où viennent alors les 21 000 dollars dont on parle beaucoup dans les réseaux sociaux?
Oui, les 21 000 dollars, ça c'est pratiquement la partie des invisibles. Les invisibles viennent d'abord de ces fonds qu'on appelle les fonds spéciaux d'intervention. Cette ligne est une marmite qui englobe tout. Aujourd'hui, c'est presque 80% des fonds affectés à l'Assemblée nationale, parce que on parle de l'Assemblée nationale qui a un budget, par exemple, en 2024 de 300 millions de dollars. Et dans les 300 millions de dollars, si vous regardez, 80%, c'est le fonds spécial d'intervention. Toutes ces pratiques-là ne sont pas retracées dans la loi des finances et ça pose énormément de problèmes.
Est-ce que vous supposez ou vous en avez des preuves?
Ça ne commence pas seulement maintenant. Mmh. C'est une ancienne pratique. Je pense suivi à une vidéo qui circule en ligne où lui-même, le président Kamere, qui a déclaré clairement lors du procès de 100 jours qu'il avait transformé les invisibles à d'autres avantages payés à certains responsables de l'Assemblée nationale, mais aussi à certains députés.
Alors, en marge de l'investiture du gouvernement, CREFDEL, votre organisation, avait affirmé que chaque député s'est fait corrompre avec une moyenne de 30 000 dollars pour investir le gouvernement. Où avez-vous tiré ces montants?
Bon, la méthodologie du travail du CREFDEL, c'est une méthodologie qui est citoyenne. Nous nous basons d'abord sur, premièrement, des interviews que nous organisons avec les députés nationaux. Il y a certains députés qui acceptent volontairement de nous donner des informations. Deuxièmement, vous avez des assistants parlementaires qui acceptent volontairement de nous livrer des informations. Nous voulons dire que nous, on ne s'attaque pas à des individus. Le vrai débat doit être fait au niveau du système.
Alors, le bureau de l'Assemblée nationale a réagi, estimant que vos affirmations peuvent être qualifiées de propagation de faux bruit. En même temps, vous avez été invité à l'Assemblée nationale et vous avez décliné l'invitation. Vous avez dit que vous serez disponible seulement après le mois de juillet.
Écoutez, nous sommes des citoyens, nous travaillons avec l'État. L'Assemblée nationale, c'est une très grande institution de contrôle de notre pays. Nous avons des mécanismes de collaboration. Et nous avons les décrets portant gouvernance budgétaire. budgétaire qui nous couvre pour faire ce travail, mais aussi l'article 24 de la Constitution qui nous couvre. Et dans ce cadre-là, nous avons des mécanismes de collaboration. Il y a des invitations qui peuvent passer de manière officielle et nous sommes prêts à discuter. Nous avions saisi le rapporteur de l'Assemblée nationale parce que nous étions empêchés. On est en train de préparer une grande activité qui va commencer demain. Donc, c'était un peu pour nous difficile d'être là. Il y a une équipe qui prépare cette rencontre. Bientôt, nous allons relancer le bureau pour que nous puissions organiser rapidement cette séance de travail.
Mais en même temps, vous n'êtes pas disponible pour répondre à l'invitation de l'Assemblée nationale, mais vous êtes présent dans les médias. Est-ce que ça ne confirme pas ce que pensent certains députés de l'acharnement de votre part ou de l'intention de vilipender ou d'exposer les députés au lynchage?
Non. On ne vilipende pas les députés. Nous voulons qu'il y ait changement. Vous savez que il y a eu plusieurs abus que nous avons dénoncé depuis plusieurs années. L'institution Assemblée nationale aujourd'hui, c'est une vitrine. Ça représente le peuple. Nous ne voulons pas que cette institution qui est censée défendre la volonté populaire soit aujourd'hui une institution où il y a des pratiques de corruption qui sont organisées, où les fonds publics sont mal gérés. Vous savez que l'Assemblée nationale est appelée également à contrôler le gouvernement. Si l'Assemblée nationale gère mal ses fonds, nous nous posons des questions. Comment est-ce que celle-ci pourrait demain aller contrôler le ministre qui est l'émanation même de l'Assemblée nationale.
Monsieur Valéry Madianga, je vous remercie.
Voilà, c'est sur cette problématique des émoluments des députés nationaux que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi.